chanson française, vous retrouvez, je vous l'ai dit, Chantal et Daniel demain matin de 8h30 à midi pour ma chansonnette. Et la musique Zouk, donc Jean-Louis, tout à l'heure de 17h à 19h. Pour la balade intertropicale. Et JP et Marcel demain midi de 12h à 14h pour Ambiance Soleil. Allez, je vous dis salut et tout de suite pour les mix.
Radio G. www.radio-g.fr.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Allô, allô. La direction rappelle aux spectateurs qu'ils doivent s'abstenir de manifester de quelque manière que ce soit pendant la projection des actualités. Des mesures très sévères seront prises contre tout spectateur dont l'attitude constituerait même un commencement de manifestation.
Signe d'étang, voici que vos cheveux, mesdames, que vos cheveux, messieurs, vont servir maintenant à fabriquer vos vêtements. Dégraissés et séchés à présent lavage, les cheveux rendus floconneux sont mélangés à une très petite quantité de fibrane. Le mélange est cardé et se présente alors sous l'aspect de mèches qui sont tordues pour fournir des fils de toute grosseur. Il ne s'agit plus que de tisser à l'aide de ces fils l'étoffe d'un nouveau genre que nous allons connaître. C'est ainsi que vous porterez, madame, des gants et des chaussons de cheveux. C'est ainsi que votre pullover, monsieur, pourra être fait des cheveux de votre bien-aimé.
Salut tout le monde et bienvenue à vous pour cette balade à la recherche du potager de l'occupation. À l'instant, des actualités françaises de 1942. À l'époque, la France est occupée et pillée par les nazis. Tissus, cuir, chaussures, allumettes, chauffage, médicaments, les Français manquent de tout et pas seulement de nourriture. C'est pour évoquer cette période de privation que vous avez rendez-vous avec notre prof d'histoire géo, Cédric Delaunay. Salut Cédric.
Salut.
Vous voilà au potager de la Gloriette à Tours, en région centre. C'est un pays de fleuves et de maraîchage, un endroit parfait pour parler de ces jardins que les habitants de la France occupée cultivèrent pour tenter de subvenir un peu à leurs énormes besoins en nourriture. Recréer un jardin de l'occupation, un projet mené par Cédric avec l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants, le Musée de la Résistance et de la Déportation de Blois et bien sûr les jardiniers de la Gloriette et la ville de Tours.
On a essayé de mêler plusieurs idées. La première idée, c'était de s'intéresser au quotidien des Français pendant la guerre. C'est vrai qu'on fait souvent de l'événementiel, les grands événements, les grandes dates, les opérations géostratégiques, enfin une histoire vue un peu d'au-dessus. Et là, l'idée était de partir d'en bas, de voir la France d'en bas, comme dirait l'autre. La France au quotidien et les difficultés des Français au quotidien, dont la première a été bien sûr l'approvisionnement. De l'autre côté, c'était l'idée de le rapprocher aussi des enfants d'aujourd'hui, dont on critique souvent leur manque de connaissance des fruits, légumes, animaux et poissons carrés avec les yeux dans les coins. L'idée était de leur faire découvrir des légumes, des fruits de l'époque, une éducation à la nourriture et de voir comment en période de pénurie leurs lointains ancêtres, comment ils ont dû faire hein, pour pallier au manque. Aujourd'hui, on vit aussi une époque de pénurie pour d'autres raisons, mais pénurie, cherté des légumes, des produits, voir un petit peu comment on peut faire pour se nourrir à pas cher, et puis découvrir de nouveaux goûts. Voilà.
Quand j'étais toute gamine, pour imiter la sourdine, je me bouchais les narines. Bili 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 bili, ouais ouais, j'ai du rythme, j'ai du swing, j'ai le rythme des dancing. Dans la peau, j'ai que ça. toute gamine pour imiter la sourdine. Je me bouchais les narines. Bili 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 bili.
Elle a du rythme et du swing. Marie Bizet et l'orchestre Pierre Chagnon, enregistré le 3 novembre 1941 en pleine période de l'occupation. Une musique négrisante, pas bien vue ni des nazis ni du régime de Vichy, mais une musique tolérée dans les dancings où s'amusent ceux qui en ont les moyens, occupants y compris bien sûr. Mais de 1940 à 1944, la population française va elle être privée de tout, à commencer de nourriture. Les magasins sont vides la plupart du temps et quand il y a quelque chose, c'est rationné par des tickets. Pour pouvoir manger quelque chose, nombre de Français de la France occupée se mettent à jardiner. Retour sur cette lugubre époque avec ce projet de jardin de l'occupation au potager de la Gloriette, à Tours. Notre prof d'histoire géo Cédric Delaunay revient sur les origines de cette entreprise pédagogique.
Oh bah c'est un partenariat, j'allais dire, d'abord de relation avec le musée de la résistance et de la déportation
de Blois,
avec Laurent Kilikini, l'Office national des anciens combattants, donc Nathalie Paton, Anne de Grieck, qui s'en occupe au niveau départemental. C'est vrai qu'on s'est interrogé sur le sens des commémorations, etc. Et en voyant que ce côté-là de la vie quotidienne n'était jamais évoqué ou de façon très marginale. Et on s'est aperçu effectivement que ce thème était relativement marginal dans les livres. Il fallait piocher en fait dans pas mal de sources différentes et souvent des livres qui peuvent paraître justement anecdotiques et qui sont pas reconnus pour leur valeur historique, etc. Mais c'est là qu'on trouve ce qu'on fait le plus de chiffres.
Finalement, voir les patates avec Pierre Perret de Claude Autant-Lara, c'est pas ridicule.
Finalement, ces films-là sont souvent un petit peu méprisés, mis à part peut-être La Traversée de Paris, dans lequel on évoque clairement cette question-là. Qui reste...
Allez, on se met un coup de janvier.
Janvier
Denis-Franc, nom d'adieu, janvier. Janvier, Denis-Franc.
Rien du tout. Je lui casse la gueule.
Janvier, je veux Denis-Franc, janvier, 45 rue Palimau.
Oui, oui, on le sait, plus un franc, plus un sou.
Mais laissez-moi le descendre.
Janvier.
Vous êtes pas fou? On vous attend partout.
Salaud de pauvre.
Vous n'aurez même pas échappé au salaud de pauvre hein, de La Traversée de Paris, de Marcel Aimé, qui eut quelques problèmes à la Libération, mais ce n'est pas notre sujet, quoique.
Et Claude Autant-Lara, je crois qu'il a mal fini aussi dans sa vieillesse. Il a eu quelques sympathies malencontreuses.
Encore, ces vedettes de l'écran étaient admirées par le monde entier. Mais la célébrité est chose bien passagère. Les vieux films sont aujourd'hui déchiquetés, puis trempés dans des bains chimiques afin d'être débarrassés de leurs images. Et maintenant, la vedette de l'écran qui fut jadis, madame, votre préférée, servira à vous vernir les ongles. Mais oui, vous l'ignorez peut-être, les vieux films servent à fabriquer le vernis à ongles. Mais ce n'est pas tout. Les restes des films vont subir une nouvelle transformation et deviendront bouillis et bientôt cirage. Si vous avez de l'imagination, monsieur, vous devinerez peut-être sur le brillant de vos chaussures le sourire de celle qui vous fit rêver quelquefois.
Dans la joie, nous allons découvrir les vertus et les saveurs des rutabaga, navets et autres topinambours dont nos grands-parents nous ont dit tant de bien.
Ils en pensaient beaucoup de mal, mais on va voir que c'est pas si mauvais que ça, hein. Ça peut même être bon. Faut les préparer un peu quand même.
On va aller voir ça in situ.
Thank you.
Cédric, tu le disais tout à l'heure, pendant l'occupation, entre 40 et 44, et même après d'ailleurs, parce que c'est une situation de pénurie qui a duré longtemps, la préoccupation majeure des Français de l'époque, c'est survivre. Tout manque, en fait, pas seulement la nourriture, tout manque. Pendant l'occupation, les Français perdent 50% de leur pouvoir d'achat, et en moyenne 10 à 12 kilos par individu. Et puis pour en avoir aussi discuté avec ma grand-mère maternelle, à qui j'avais dit, dis donc, dans la famille, on était plutôt maréchal ou plutôt général ou machin. Elle m'a dit, oh bof, mon petit gars, on avait d'autres préoccupations, qui étaient surtout de trouver à manger. Il y avait à la maison des enfants en bas âge, le père n'était pas là. Nos préoccupations gravitaient pas tellement autour du maréchal ou du général, mais surtout de trouver quelque chose à mettre dans l'assiette le soir.
C'est une préoccupation qu'on a longtemps oubliée en histoire. C'est-à-dire que finalement, on fait, ce que je disais tout à l'heure, une histoire un peu surplombante des choses, et très politisée, etc. Tout en voyant que le quotidien des Français, ça n'a pas été d'être des héros ou des salauds. Effectivement, la première tâche consistait à nourrir sa famille, à éviter les bombes anglaises, à éviter les fusils allemands. C'était compliqué. Moi, mon grand-père racontait toujours que la seule fois où il a eu un problème, en fait, avec des gendarmes, c'est quand il avait dû aller à la campagne sur son vélo pour aller chercher du lait pour sa petite fille, parce qu'il n'y avait pas assez de lait. À la ferme, il s'est retrouvé nez à nez avec des gendarmes qui aussi cherchaient des bidons de lait pour leur propre famille. Bon, lui, comme il était un peu grande gueule, il s'est branché avec eux, les gendarmes lui ont demandé ses papiers, etc. Il a dû aller jusqu'à la commandant tour pour aller récupérer ses papiers en justifiant qu'il allait se promener à vélo dans la campagne, qu'il n'avait pas grand chose à y faire si ce n'est faire du, non pas du marché noir, mais récupérer au marché noir du lait. Voilà, ça a été la réalité quotidienne des Français, et ça a été la plupart des histoires des Français pendant la guerre.
Les Français doivent officiellement vivre avec 1200 calories par jour, la moitié du minimum. Mais si l'épicier n'a plus de pommes de terre, le quincaillier en a peut-être, et de meilleures. Mais elles valent 5 fois plus cher. L'opération survie est commencée. Paris tourne au ralenti.
En fait, pour comprendre les pénuries, déjà, il faut comprendre que le système agricole français, avant même la guerre, est déjà extrêmement archaïque. Il faut imaginer une France qui ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui.
La France est essentiellement rurale.
Oui, oui. Ce qu'on appelle la transition urbaine, en fait, n'est atteinte qu'en 1931. En 1931, c'est là où il y a le plus d'urbains que de ruraux. Mais la France reste un pays très, très rural et très agricole. Par exemple, sur le département de l'Indre-et-Loire, en 1939, il y a un recensement du matériel agricole qui est fait. Il y a 400 tracteurs et 3 moissonneuses pour tout le département, alors que c'est un département vraiment à dominante agricole, plutôt riche. Comparé aux départements agricoles que peuvent être ceux du centre de la France, des marges montagnardes du Massif central, etc. On est dans un département plutôt riche et on se retrouve avec 400 tracteurs et 3 moissonneuses. La force tractée, en fait, ce sont les chevaux encore, 35 000 chevaux et 3 000 ânes et mulets qui servent à tirer les charrues. C'est ça la France de l'époque, c'est des toutes petites exploitations agricoles. La moyenne de superficie, c'est 5 hectares. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent avec un matériel très archaïque et qui font essentiellement de l'autoconsommation. Les surplus alimentaires sont déjà, avant la guerre, relativement restreints et la nourriture coûte cher. Je dis des banalités pour les gens qui sont un peu âgés, etc., qui ont vu ça. Mais pour les plus jeunes, ça les surprend toujours de comprendre que la nourriture coûtait cher, qu'on mangeait pas de la viande tous les jours. Déjà, on est dans une situation relativement précaire. Alors ensuite, qu'on a enjolivé après la guerre, bien sûr, c'est devenu un espèce de mythe de l'âge d'or, c'était formidable, etc. Mais on est face à une France qui est pauvre. C'est un pays qui est pauvre. Et bien sûr, quand il va y avoir le choc de la guerre, de la défaite, il va y avoir une série de déflagrations qui vont faire que le système agricole français va complètement s'écrouler. Et souvent, on dit, ce sont les réquisitions allemandes qui ont entraîné la disette française pendant la guerre. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça va continuer très longtemps après la guerre, parce que les quais de rationnement, par exemple, continueront jusqu'en 47, jusqu'au plan Marshall, où effectivement les Américains arriveront avec leur cargaison de blé, de bœuf, de lait, qui permettront de redonner à manger aux Français correctement.
Alors Cédric, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avant même le déclenchement de la guerre en 1940, la nourriture coûtait déjà cher. La viande, le fromage, c'était des luxes.
Oui, c'est-à-dire que l'alimentation courante du français, ça reste les pommes de terre, le pain, et une soupe de légumes plus ou moins variée. Alors bien sûr, il y a des différences selon les niveaux sociaux. Dans les milieux populaires, hein, je parle pas de milieux pauvres, je parle de gens qui travaillent, je parle pas de gens miséreux. Hein. C'est le quotidien, c'est une soupe un peu garnie avec du pain et un morceau de lard.
Alors peut-être déjà avec une différence entre les urbains et les ruraux. Voilà. On mange certainement plus varié et peut-être mieux à la campagne.
Ça dépend là aussi le niveau social. On tue le cochon. Traditionnellement, on tue le cochon en décembre, ce qui fournit de la viande qu'on va saler au fur et à mesure. Donc on mange plutôt pas mal de viande en période hivernale, mais ensuite ça se restreint. Alors il y a les petites volailles. On mange de la volaille. Mais ce qui est significatif, c'est de voir les repas de fête, de mariage, etc. Alors aller chercher dans les greniers les cartes de menus de mariage de vos arrière-grands-parents. On mange, mais de façon mais incroyable. Il y a 5-6 plats de viande, etc. Ça marque véritablement la rupture avec le quotidien. C'est-à-dire que ce jour-là, il faut que tout le monde s'en souvienne. Donc on va faire gras, mais vraiment très gras, quoi. On va manger 4-5 plats de viande pour que ça reste dans les mémoires et que ça tranche véritablement avec le quotidien où justement la viande reste en général une fois par semaine.
Dans certains mondes paysans africains ou indiens, quand on marie le fils, la fille, etc., bah on s'endette pour le mariage, pour acheter un mouton, une vache, pour que les gens, en mangeant de la viande, se souviennent de ce jour-là. Bah, en fait, notre France des années 30 ressemble un peu à ce que peuvent vivre certains paysans indiens ou africains.
Oui, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Quand on voit les slums de Mumbai ou les favelas de Rio en leçon de géographie, je leur fais, tout compte fait, c'est pas si différent de la réalité française de la fin du 19e. Hein.
Dire, s'il y a des bidonvilles d'Aubervilliers voilà. 1945.
Voilà, donc l'insalubrité, le côté précaire de l'habitat, les maladies qui rôdent, on voit ça dans Voyage au bout de la nuit, je veux dire, les fièvres typhoïdes qui massacrent les quartiers populaires dans les années 1930, c'est une réalité qu'on a complètement oubliée. Alors effectivement, les drames de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale on fait qu'on a une vision un peu mythifiée de cette France triomphante, la plus grande France, le colonialisme, etc. Mais la France était un pays extrêmement pauvre, avec des populations qui avaient déjà du mal à se nourrir. Alors quand va arriver la défaite, c'est un vrai drame.
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Donc en 1940, hein, la France connaît une défaite militaire terrifiante en mai-juin 1940, avec une offensive allemande fulgurante hein, qui conduit à l'armistice hein, qui est accepté par les Allemands le 22 juin. Sauf que les Allemands ont fait de très nombreux prisonniers. Souvent on a caricaturé l'armée française en désagrégation, mais elle s'est surtout désagrégée à partir du 17 juin. Où là, le front s'est complètement effondré et les soldats ont globalement arrêté de combattre, sauf sur certains points de résistance sur la Loire. Mais les Allemands, entre le 17 et le 22 juin, ont fait des centaines de milliers de prisonniers qu'ils ont emmenés en Allemagne et qui vont rester en Allemagne pendant 5 ans, qui seront libérés en 1945, voire au-delà. Hein. Et c'est autant de bras qui vont manquer dans les champs, mais aussi dans les usines, bien sûr, mais là, on est sur la question agricole. Et donc, les femmes vont devoir travailler à la place. Et comme on est dans une agriculture qui utilise encore beaucoup le moyen manuel et la force musculaire, il va manquer de la force musculaire pour actionner les charrues, ramasser le blé, etc., moudre. C'est le premier problème, c'est le problème humain. Il va manquer des bras. Alors, on a beau recruter des GTE, hein, des groupements de travailleurs étrangers, alors des Espagnols qu'on a récupérés, des coloniaux qu'on fait venir aussi, hein, avec des choses qu'on a oubliées, hein, par exemple des Vietnamiens qu'on a balancés au fin fond de la Camargue et qui sont tous quasiment morts, hein, ce qu'on appelle les Kongbin, hein, 25 000 personnes transbordées depuis leur Vietnam natal où ils ont été quasiment raflés et qui ont été crevés au fin fond de la Camargue sans alimentation ni quoi que ce soit. Dans nos régions, il y a beaucoup d'Espagnols, hein, des gens de pays neutres comme ça qui ont été expédiés dans les champs pour aller bosser. Mais on manque de main-d'œuvre.
Que je t'aimerai toujours.
Monsieur Scapini, ambassadeur de France, vous parle.
Près de 2 millions d'hommes constituent l'élite et le meilleur de la jeunesse française. Ils sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne, de son côté, ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun, franco-allemand, se dégage d'une manière claire. Le principe en a été fixé à Montoire. L'intérêt commun des deux pays impose la collaboration pour la grande reconstruction. C'est par la confiance que la France fait unanimement au maréchal Pétain qu'il doit trouver sa traduction.
C'est que par-delà le désastre, un chef a rallumé chez les Français la flamme de l'amour de la France. La France a trouvé dans le maréchal de nouvelles raisons de croire. Elle a trouvé en lui le témoignage de sa survie aux plus dures épreuves, l'assurance de son relèvement dans une Europe plus unie, au sein de laquelle elle aura la place que son passé légitime et que son relèvement garantira. Et cette jeunesse ardente, ouvrière des nouvelles destinées du pays, cette jeunesse qui se donne entièrement au maréchal comme on se donne à un père, a puisé en elle les forces nécessaires pour reprendre le flambeau vacillant, parce qu'elle a cessé d'être une proie facile pour les idéologies meurtrières importées de Moscou, et que, fière de la France, elle travaille pour que la France, un jour, soit fière d'elle.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Lutter sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. Tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons,
nous tes gars,
de servir et de suivre tes pas. Maréchal,
nous voilà,
tu nous as redonné l'espérance.
La patrie
renaîtra.
Maréchal, nous voilà.
Maréchal Pétain parle à la France.
Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume, ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose, et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure.
Le maréchal Philippe Pétain en 1941 pour illustrer un peu l'ambiance de la France occupée, toujours avec notre historien Cédric Delaunay.
C'est l'époque où l'on planta des graines de tomates dans le jardin du Luxembourg. Faute de tracteurs, d'essence et de main-d'œuvre, la terre était de moins en moins cultivée. Mais jamais on a semé autant de radis sur les balcons et de salades en bordure des terrains de football. Cela s'appelait, chaque époque a son style de jardin, les jardins du maréchal.
Donc Cédric, il faut le rappeler, hein, la population française va souffrir beaucoup pendant l'occupation. Cela dit, la France jouit, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, d'une situation d'occupation qui est un petit peu différente. Hein. Si on compare par exemple à ce qui se passait sur le front de l'Est, il n'y a rien à voir. Cela dit, la France est littéralement pillée par les nazis. Ça, c'est une chose que j'avais pas bien réalisée, mais en 1944, à la libération, les gens sont exsangues. Il n'aurait pas fallu que l'occupation dure plus. Comme on le disait en début d'émission, les gens ont perdu en moyenne 12 à 15 kilos par individu.
C'est un pillage qui est totalement rationalisé. Alors, il est rationalisé à l'échelle européenne. Très clairement, le pillage se fait en fonction de la vision raciale allemande. C'est-à-dire que les Slaves ne valent rien, donc on va leur piller beaucoup. Les Juifs ne valent plus rien, donc les rationnements de ghetto, effectivement, dégringolent en 42 et avant d'être exterminés. En gros, il faut fournir la quantité de nourriture nécessaire à la population pour qu'elle soit un peu capable de travailler. Mais la France, et dans l'Empire allemand, hein, tel qu'il se constitue en 42, est très clairement le pays potentiellement le plus riche et le plus producteur de céréales, de biens agricoles, bien supérieur à ce qui se fait en Pologne ou ce genre de choses. Et donc, la France va être pillée de façon effectivement très rationnelle. On estime que les calories disponibles, hein, officiellement, hein, par Français, c'est 1300 calories jour. Pour rappel, ça fait à peu près la moitié de ce qu'il faut consommer pour renouveler ses forces. Ce pillage, alors, il est à destination, un, de l'armée d'occupation, deux, pour ravitailler l'Allemagne, car la grande peur d'Hitler, c'est que se reproduise le même phénomène qu'en 1918, à savoir que la population allemande, l'intérieur, se retourne contre le gouvernement du fait du manque de nourriture, hein, qu'avaient eu à subir les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, et qui avait conduit, en partie, hein, c'est pas la seule raison, mais qui avait conduit à la révolution qui a fait chuter le Deuxième Reich et l'empereur Guillaume. D'abord, la révolution social-démocrate, celle de novembre, ce mécontentement populaire, il va aussi se traduire, effectivement, avec les divisions du socialisme allemand, hein, par la révolution spartakiste de janvier 19. Alors, il y a ce pillage-là à destination de l'Allemagne et de l'armée d'occupation, mais il y a aussi un souci pour le gouvernement de Vichy, etc., c'est le ravitaillement des grandes villes. Alors notamment pour la Touraine, etc., c'est le ravitaillement de Paris. Et donc vous avez une administration centrale du ravitaillement qui est chargée de transférer de l'espace rural et agricole vers les grandes villes, de quoi nourrir ces grandes villes qui subissent des situations de pénurie bien plus alarmantes que les campagnes. Parce que comme on verra, en campagne, il y a toujours les moyens de se débrouiller. Alors, il y a le système D, aller dans les bois, ramasser des glands, on faisait de la farine de glands, on allait braconner le lapin. On m'a même raconté comment on pouvait choper des biches avec des pièges, avec des espèces d'arbres tordus qui permettaient de foutre la biche par terre, de l'attraper par le cou et de se débiter une biche comme ça, tranquille. À la campagne, on peut toujours se débrouiller, on peut cacher un peu de nourriture, etc.
Sans braconner, enfin, on peut aussi connaître un fermier, enfin, quelqu'un voilà. Qui vous vend des œufs, un bout de jambon.
Voilà,
enfin.
Cacher une poule, c'est facile. En ville, c'est beaucoup plus compliqué.
Sandinaire, ce que tu me dis, parce que j'ai fait beaucoup de reportages à la campagne, Ça m'arrivait un nombre au cours des années 2000 qu'un paysan, un vieux paysan me dise, ah là, mais si les Boches revenaient, je sais pas ce que vous feriez en ville. J'ai entendu ça, tu peux pas savoir combien de fois, cette mémoire vivace de la privation, encore vivante dans les années 2000, 60 ans après. Ou alors quand tu bois un coup avec un paysan après un reportage, ben voilà, ça m'est déjà arrivé d'entendre, encore un, que les Boches auront pas.
Ah oui, bah ça c'était vraiment mon grand-père. Ça. Quand il vidait une bouteille, il faisait toujours ça que les Boches auront pas. Donc, c'est quelque chose qui est assez très prégnant dans la mémoire. C'est pour ça que ce projet me semblait très intéressant, parce que justement, il colle à la mémoire des Français et tout compte fait à leur vie quotidienne. Tout compte fait beaucoup plus que les débats politiques entre giraudistes et gaullistes. Ça leur passait un peu au-dessus de la tête, quoi.
Tiens, d'ailleurs, on va s'écouter cette archive de privation. Vous connaissez tous cette technique qu'avaient les femmes de l'époque pour compenser l'absence de banilon.
Mais la dernière trouvaille de Paris, c'est le bas de soie sans soie. Il s'agit tout simplement, mesdames, de vous teindre les jambes. C'est facile et pratique. Il suffisait d'y penser. Et déjà, vos élégantes ont remplacé la jarretière par le pinceau.
Donc les années 40, beaucoup d'inventivité.
Ouais, beaucoup d'inventivité pour pallier au manque du quotidien.
C'est du bois des forêts que seront désormais ressemelées vos chaussures. Des plateaux de bois découpés, rabotés, arrondis à la toupie, deviendront des semelles qui seront dédoublées, façonnées, pendues à l'aide de scies multiples afin d'acquérir de l'élasticité. Et en attendant des temps meilleurs, le cordonnier adaptera à la place de l'ancienne semelle de cuir ou de caoutchouc la semelle de bois des vieilles galoches d'autrefois, rendues cependant plus souples.
Tout manque, hein. Pourquoi les semelles de bois? Parce qu'il n'y a plus de cuir. Même la ficelle manque.
Oui, la ficelle manque pour effectivement entourer les bottes de paille. On n'a plus de ficelle. Donc il faut voir qu'ils sont confrontés à toute une série de problèmes et de confiscations autoritaires de leurs biens agricoles qui obligent à une inventivité incroyable. Alors juste par exemple un chiffre, hein. En 1942, l'Indre-et-Loire produit 125 000 quintaux d'avoine. D'accord, donc indispensable à l'époque pour la nourriture des troupeaux, etc. 100 000 sont réclamés par l'administration centrale du ravitaillement pour alimenter Paris, ou qui partent en Allemagne, soit les trois quarts. En avril 41, par exemple, les Allemands demandent 728 bovins par mois. Or, le département n'en produit que 600. Alors, comment on fait? Tout est raflé. Il faut imaginer des gens qui vivent dans une pénurie incroyable. L'administration, alors c'est bien, parce que les sources, alors là, sont chiffrées, on a tout, hein, il suffit d'aller voir.
Les archives sont impitoyables.
Sont impitoyables. Et dans l'Indre-et-Loire, par exemple, entre 1938 et 1942, on avait une comptabilité des bovins, etc. Alors, il y a moins 12 000 vaches, moins 3 500 chevaux, moins 4 000 moutons. Donc, on enlève à manger les vaches, on enlève le lait, mais avec les chevaux, par exemple, on enlève la force motrice essentielle dans les campagnes. On a vu qu'il n'y avait pas de tracteur, hein, ou quasiment pas de tracteur. Et donc, on enlève la force motrice et la capacité à produire de la nourriture. Donc, on est là dans un système agricole qui était déjà précaire, fragile, et qui est complètement désintégré, en fait, par la guerre, par manque d'hommes, par les pillages, et par le manque de matériel agricole. Mais il y a aussi un autre point, c'est la ligne de démarcation. Si on regarde en Indre-et-Loire, par exemple, la ligne de démarcation coupe le département en deux, ce qui est un cas un petit peu singulier, hein, cette ligne de démarcation. Et la grande laiterie qui collectait le lait pour l'Indre-et-Loire est à Ligueuil, en zone sud. Mais la majorité des producteurs se trouvent en zone nord. Et le passage du lait de zone nord en zone sud est quasiment impossible. Alors les Allemands ont essayé d'assouplir un peu les choses, parce qu'ils voyaient que ça posait de vrais problèmes de conservation d'un produit qui était recherché et qui en plus se fait rare. Et là, des millions de litres de lait ont été perdus par des problèmes de conservation qui étaient liés purement à des problèmes administratifs. Donc il faut imaginer un paysage rural et agricole complètement dévasté. Et c'est là que va jouer l'ingéniosité et l'inventivité pour contrecarrer ce problème.
En bois, ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson, c'est bon,
Ah, que c'est bon. Mais que c'est bon.
Il y a fort à parier que s'il les a chantés, des semelles de bois, la superstar Maurice Chevalier n'en a pas porté, lui. Chevalier, qui comme de nombreux artistes français, s'est fort bien accommodé de l'occupation et n'a pas particulièrement brillé par son action dans la résistance, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un autre sujet. Retour à la propagande de l'époque.
Au lendemain de l'armistice, notre pays, qui auparavant apportait d'outre-mer plus de 2 millions de tonnes de denrées alimentaires, fut coupé de ses principales sources de ravitaillement. Un blocus appliqué brutalement et sans discernement par la Grande-Bretagne le privait d'une grande quantité de produits de première nécessité. Frappé directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartie entre tous, pauvres et riches, n'ont maigre ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière.
Alors Cédric, l'occupant nazi a pensé à tout pour que les gens puissent renouveler leur force de travail. Ils ont droit quand même à un certain nombre de calories par jour.
Oui, alors il fallait pas être très exigeant. Alors le pain, par exemple, en 1940, c'est 350 grammes par jour et par personne. On tombe à 300 grammes. Donc ça fait une grosse baguette, quoi. Une baguette, c'est 250 grammes.
Il faut rappeler que le pain constitue l'essentiel de l'alimentation des gens de l'époque.
Et donc là, 300 grammes de pain par jour. Alors c'est une moyenne, hein, parce que là, je vous donne les quantités officielles auxquelles avait le droit la population avec les fameux tickets de rationnement. Tickets de rationnement qui, d'ailleurs, ont été mis en place dès 1939, avant même l'occupation. Hein. Déjà, on avait prévu que ça serait problématique et que la guerre serait difficile. Donc 300 grammes de pain et on a droit par exemple à 100 grammes de viande par mois. Donc 3 grammes de viande par jour. Vous avez droit à 40 grammes de fromage par semaine. Donc 6 grammes de fromage par jour. Café, c'est 150 grammes par mois.
Mais encore faut-il qu'il y en ait parce que on a beau avoir des tickets, faire la queue, on n'est pas sûr d'être approvisionné malgré tout.
Effectivement, ce sont les quantités théoriques disponibles. Mais comme on l'a vu avant, par exemple, toutes les vaches du département sont envoyées en Allemagne ou vers Paris.
Même pour les 3 grammes de viande, on peut repasser.
Voilà,
quoi.
Donc les 3 grammes de viande, vous pouvez ne pas les voir. Hein. Donc les commerces ferment. Dans les images d'archives, on voit plus de pain, plus de lait, plus de ceci, plus de cela. Évidemment, parce que malgré vos tickets, ça vous donne le droit d'acheter. Mais il n'y a pas forcément la quantité disponible chez le marchand.
Et alors quand on arrive à toucher le produit, encore aussi faut-il évoquer la qualité du produit en question. Moi j'ai entendu parler d'histoires de pain où il n'y avait pas que de la farine, hein, et de la sciure de bois.
De la sciure de bois, tout ce qui pouvait traîner. Effectivement le pain est de très mauvaise qualité. Hein, très
souvent. On parle de pain noir.
Je me rappelle toujours de mon grand-père, effectivement, la mode était au pain noir dans les années 80-90, et lui, il repoussait ça en disant « Oh là là, c'est bouffé par la hyarde, cette saloperie, on veut du pain blanc, d'accord, du pain avec du blé, bien blanc, sans écorce, sans rien. Voilà. » Effectivement, le pain noir, il appelait ça le pain de boche, d'accord, il voulait pas le voir, le pain de boche, ça, c'était pas possible.
En revanche, les innovations dans le sac sont surtout utilitaires. Ils comportent des poches pour tickets d'alimentation. On aime les sacs de grand format. Et ce modèle s'appelle tout simplement Marché Noir. Qui dira ce qu'ont pu contenir les sacs des élégantes de ce temps? Plus de beurre en tout cas que de rouge à lait.
En fait, pour être sûr d'avoir quelque chose dans les magasins, les personnes un petit peu aisées achetaient les services de ce qu'on appelait une queutière, qui faisait la queue pour vous avec vos tickets, alors qu'ils se levaient très tôt le matin. Et qui prenaient des tickets de caisse de 2-3 personnes un peu riches. Et c'était leur métier, elles faisaient la queue hein, pour être les premières à les choper et essayer d'avoir quelque chose dans les magasins. On affiliait aussi les gens à certaines boutiques pour essayer de rationaliser au maximum. Mais on s'aperçoit que cet effort de rationalisation de la part de l'administration est complètement vain et finit par être complètement absurde, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas les produits. On voit un système très administratif, très bien organisé, avec des bons, des coupons, etc. Mais ça tourne à vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bouffe. Simplement, il n'y a rien à vendre. Et donc, forcément, les gens, là, ça va être Marché Noir, Ersatz, ça va être Système D, pour tenter de trouver de la nourriture.
Le marché noir, hein, c'est acheté sous le manteau. Alors peut-être que les plus jeunes auditeurs vont peut-être rigoler quoi, à l'idée que on puisse vendre du beurre ou un saucisson comme aujourd'hui on vendrait de la drogue.
Bah oui, mais c'était exactement ce qui se passait. Ça prenait tout un tas de formes différentes. Soit c'est le producteur qui allait vers les consommateurs, soit le consommateur qui devait aller chez les producteurs à la campagne pour récupérer les produits. Mais par exemple, en avril 40, un kilo de sucre, ça coûtait 7 francs. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un ouvrier un peu qualifié, etc., gagnait 700 francs. 7 francs, un kilo de sucre, c'était relativement démocratisé. Hein, ça, c'était plus le produit luxueux de la fin du 19e. Les gens pouvaient consommer du sucre. Un kilo de sucre se vend en février 44 au marché noir 155 francs.
La moitié d'un mois de salaire d'un ouvrier.
Voilà, exactement. Donc c'était devenu un produit complètement intouchable sur le marché noir et sur le marché officiel. Alors en théorie, vous aviez droit à 500 grammes par mois, mais ils existaient pas, 500 grammes, vous ne les aviez plus. Les prix étaient réglementés. Quelqu'un qui vendait du sucre n'avait aucun intérêt à le vendre sur le marché légal, parce qu'il vendait à prix plafonné et légalisé par l'État. Donc bien sûr, il essayait de cacher le sucre et de le vendre au marché noir, où là, il gagnait énormément d'argent.
Agriculteurs, vous avez encore chez vous un ou plusieurs sacs de blé. Livrez le plus tôt possible ces fonds de grenier qui suffiront pour combler le déficit. Sachez-le bien, ils ne seront affectés qu'à la soudure. Paysans, vous n'hésiterez pas à faire volontairement l'effort qui vous est demandé. Acte décisif de solidarité nationale. La mobilisation du blé est commencée.
Toutes ces histoires, effectivement, de soustraction de produits au marché officiel pour être vendus sur le marché noir, ça fait naître d'énormes tensions dans la société française, notamment entre les ruraux et les urbains. Les urbains reprochant aux ruraux de s'engraisser et de cacher de la nourriture qu'ils revendaient ensuite au marché noir.
Alors, on a tous entendu un petit peu, je ne donnerai pas de nom, hein, mais il y en a de célèbres, de fortunes qui se sont bâties très très rapidement, hein, entre 40 et 44, sur la pénurie et le malheur des autres. Il y a des gens qui s'affichent comme de bons Français, qui ont amassé beaucoup d'argent pendant cette époque.
Mon grand-père était bijoutier. Il était bijoutier à Châteauroux, donc c'était en fait juste derrière, c'était en zone sud, mais pas très loin de la ligne de démarcation. Et il a raconté, non sans une certaine honte, comment il avait vu des gens arriver dans sa boutique, alors le soir, au moment de la fermeture, ou très tôt le matin, demandant un rendez-vous, si possible, nocturne, etc., lui apportant des bijoux, qu'il a achetés pour des bouchées de pain avec des billets, mais lui-même, en fait, il devait utiliser ensuite ses bijoux pour aller acheter du lait au marché noir. Donc il savait, il utilisait le malheur de certains. Il dit notamment, j'ai vu des familles juives qui devaient être assez fortunées, qui devaient vendre absolument tout ce qu'ils avaient pour avoir un peu d'argent pour essayer d'atteindre la frontière espagnole, hein, sûrement. Et lui-même ensuite se faire dépouiller de ses bijoux pour aller acheter du lait. Voilà. Donc il y a toute une espèce d'économie parallèle, totalement mafieuse, qui se met en place sur une base de pénurie et de réglementation complètement absurde du fait des pénuries.
Ça crée des tensions dès l'occupation et ça laissera des traces.
Les règlements de compte à la libération, en fait, on s'aperçoit que derrière les règlements de compte purement politiques, hein, où on va aller se taper le collabo du coin qui a ouvert un peu trop sa gueule, hein, pas les vrais responsables ils se sont barrés ou bien ils ont été assez malins pour changer de bord au dernier moment, mais le collabo un peu grande gueule du coin, effectivement, qui va avoir des problèmes, mais aussi surtout des règlements de compte liés à cette question du marché noir. On va régler ses comptes avec les paysans du coin qui se sont engraissés sur votre dos et sur votre malheur. Il y a énormément de rancœur. Là aussi, l'histoire n'a pas été totalement faite là-dessus. Hein. Il y a du travail à faire. Comme tu le disais, il y a des fortunes qui sont constituées, hein, d'énormes fortunes qui sont constituées à partir de ce trafic du marché noir. Hein.
Cela se chantait à l'époque. Elle avait des semelles de bois. La semelle dite compensée est la première compensation accordée à la nation. Pas un gramme de cuir dans tout ça. Il faut le faire. Vous vous souvenez de la mode 40 que vous venez de voir? Elle manquait d'esprit, mais non pas de matière. Pure laine, pure soie, pure cuir. Mais dès 1941, nous entrons dans le domaine des produits nationaux. Un produit national, c'est quelque chose qui est fait en une autre matière que la sienne. C'est ainsi que les semelles vont devenir nationales. Étrange époque où national est synonyme d'ersatz. Les semelles ne sont pas encore pur sapin, mais les robes sont déjà pur peuplier. Et le tapis lui-même est en genêt armoricain. La France est en train de changer de visage, mais la Parisienne sera toujours la Parisienne. Tous les regards convergent sur ses jambes. Le nylon est déjà inventé, ailleurs. Mais pour rayonner, la Parisienne doit prendre sur soi.
Chacun sait depuis toujours qu'un rien l'habille. Il s'agit de sauver la face. L'escalade de l'illusion est commencée.
C'est incroyable, l'inventivité. Il y a des livres entiers qui vous expliquent comment économiser l'énergie en faisant cuire de telle ou telle façon les œufs, etc. Et aussi pour remplacer les produits devenus courants, qu'on va remplacer par des, ce qu'on appelle des ersatz. Le mot allemand est resté.
À tout consommateur, un mot d'ordre s'impose. Se restreindre. N'ouvrez le robinet qu'après avoir enflammé votre allumette. Et fermez-le avant de retirer le récipient. L'eau qui bout à gros bouillon n'est pas plus chaude que celle qui frémit. Baissez donc votre gaz. Recouvrez vos casseroles et devenez ingénieux. Nettoyez fréquemment vos brûleurs. Sachez qu'une douche dépense 10 fois moins de gaz qu'un bain. Ne laissez pas brûler des veilleuses inutilement. À l'effort du mineur doit correspondre l'effort du consommateur. Surveillez votre compteur.
Les matières grasses, on a droit à 40 grammes par semaine. 40 grammes par semaine de beurre ou d'huile. Donc, ce qui était indispensable pour faire cuire les aliments, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire un ersatz d'huile qu'on ne trouve pas? Dans les campagnes, on va faire de l'huile avec des noix, des pépins de citrouille, enfin, tout ce dont on peut tirer de l'huile, on va essayer d'en tirer. Ou bien, je vous conseille une petite recette. Alors, vous manquez d'huile. Comment faire? Vous mélangez, alors, j'ai pas les proportions, de l'eau, du vinaigre, de l'ail et de la fécule de pomme de terre. Et avec ça, vous pouvez obtenir un semblant d'huile. Enfin, je sais pas, ça va pas être très très bon. Alors là, on voit vraiment l'esprit d'inventivité. On imagine les dames et les messieurs en train de faire des mélanges pour avoir un truc qui ressemble à de l'huile et qui permet de faire cuire les aliments aussi. Il y a ça. Et bien sûr, il y a un autre grand problème. On n'a plus de pesticides. On n'a plus d'engrais. Et donc, on avait commencé déjà à évoluer vers des productions de plantes qui avaient besoin d'engrais, de pesticides, etc. Et la période de l'occupation, c'est un retour à ces légumes qui étaient déjà oubliés ou qui déjà avaient été rétrogradés au stade de nourriture pour animal, mais qui ont une qualité, c'est qu'ils sont extrêmement robustes, n'ont pas besoin d'engrais, n'ont pas besoin de pesticides et poussent dans à peu près n'importe quelle condition. Alors, ça a laissé une trace, là aussi, dans le vocabulaire français. L'un des surnoms donnés aux Allemands, c'est les doryphores.
Et voici qu'au moment où la pomme de terre va sauver les Francs de la famine, nous sommes victimes d'une invasion de doryphores. Puisque le doryphore est l'ennemi de la pomme de terre, il est aussi l'ennemi de la France. De là à faire de doryphore le synonyme de l'allemand, il n'y a qu'un pas qui est aussitôt franchi. Ce qui est sociologiquement fort intéressant. On lutte comme on peut contre l'envahisseur.
Le doryphore, c'est cet insecte parasite qui mange la pomme de terre.
La pomme de terre est un légume absolument extraordinaire. Ça pousse n'importe où, ça a besoin de rien, ça a besoin du sable. Ça a un seul ennemi naturel, c'est le doryphore. Alors, ce qui avait entraîné la famine irlandaise en 1848-49, avec l'aide des Anglais qui leur ont pas envoyé de blé, mais ça c'est autre chose. Mais les doryphores, il faut médeciner, il n'y a pas de choix. Il faut médeciner pour éviter que les doryphores se foutent sur les patates. Sauf que on n'a plus les usines chimiques. En France, pendant l'occupation, on n'a plus de quoi épandre des produits pour tuer les doryphores.
Les usines chimiques fabriquent autre chose.
Et donc les doryphores, je pense qu'on va évoquer des souvenirs chez les plus âgés. On envoyait les enfants à l'école écraser les doryphores dans les champs de patates. Et le terme de doryphore est resté pour parler des Allemands. C'est l'un des très nombreux surnoms péjoratifs des Allemands.
Alors, les Schleux, les Bosch, les Verts de Gris.
Casque à pointe, les Fritz, etc., etc. Chose intéressante, c'est que du côté allemand, il n'y a pas de nom péjoratif pour les Français. Assez bizarrement.
Alors, c'est cochon de français.
C'est cochon de français, mais il n'y a pas de nom péjoratif pour les Français, c'est assez bizarre. Alors que, effectivement, dans le vocabulaire français, c'est perpétué encore la mémoire de ces termes employés. Et donc, la pomme de terre est sujette à être attaquée par le doryphore. Donc, on peut prendre, par exemple, le rutabaga. Eh bien, le rutabaga, ça résiste à tout. Le topinambour aussi. Mais c'est excellent, le topinambour. Et ça pousse assez vite. Ça pousse très bien, ça nécessite pas beaucoup de soins. C'est absolument formidable comme produit. Alors bien sûr, si vous en mangez tous les jours, c'est un peu problématique. La deuxième chose, c'est que c'était déjà à l'époque, en 1940, des légumes qui étaient donnés aux animaux. Alors effectivement, pour les Français, manger ça de façon quotidienne, c'était aussi mentalement être avalé au rang d'animal. C'est pour ça que ça a laissé une mémoire absolument déplorable sur ce sujet-là. Ce sont des légumes qui ensuite ont été complètement oubliés. Alors ensuite, dans les Trente Glorieuses, forcément.
Lors d'une mission en France, le feldmaréchal Göring déclarait en substance « Les Français ne songent qu'à manger. On ne peut rien en attendre de bon. » Avant lui, le maréchal Pétain avait dénoncé ce fameux esprit de jouissance qui nous a fait tant de mal. Et maintenant, où en sommes-nous de ce point de vue-là? Nous en sommes aux distributions de boissons chaudes qui préservent les vieillards de la mort. Pendant ce temps, les prisonniers se racontent des recettes de cuisine pour améliorer l'ordinaire. Et les enfants? Ils sont là. Ils poussent tant bien que mal. Mais ils poussent.
C'est vrai, quand je repense à mes grands-parents qui ont connu cette époque-là et qui ont connu, après la prospérité économique de cette époque dite des Trente Glorieuses, avoir de la viande tous les jours à table, bah, c'était un truc formidable. Nous, gamins, on se rendait pas compte, ça nous... Voilà, ce n'est qu'après que j'ai compris ce que ça voulait dire pour les grands-parents que d'avoir de la viande sur la table et du fromage.
On peut lire un certain nombre de comportements qui ont pu nous paraître un peu bizarres. Il faut comprendre cette mémoire de la guerre qui a été très prégnante chez les gens qui l'ont vécu soit en tant que jeune adulte, mais surtout qui l'ont vécu en tant qu'enfant. Donc ce qui nous ramène à des générations qui sont encore vivantes aujourd'hui.
Un autre truc qui me fascinait quand j'étais gamin, c'est pourquoi est-ce que mamie avait 23 bouteilles d'huile, 15 kilos de sucre dans son armoire?
Voilà, j'allais venir. Sinon, pour nous, ça semblait stupide. Mais au supermarché, on achète une bouteille et on revient, quoi. Non, un, on stocke, parce qu'on a toujours peur de la pénurie. Deux, on veut mettre de la viande tous les jours. Quand quelqu'un vient, on lui sert de la viande, voilà, en disant, voilà. Et moi et ma grand-mère faisaient aussi un truc, c'était autre réflexe. À la fin du repas, il restait des miettes sur la table, et elle balayait les miettes. Alors nous, on les balançait aux oiseaux, les miettes. Oh, en grand malheur. Elle avait une petite boîte en fer, et elle ramassait les miettes, elle les mettait dans sa boîte en fer, et elle en faisait du pudding. Et elle récupérait tout, comme ça, un fond de lait, un fond de lait, voilà, il reste, voilà, on a bu son bol de lait, il reste un tout petit peu de lait, on le fond, on le balance. Oh là là, non.
Quoi, tu fais ça, toi?
On le récupérait, on le remettait dans l'autre bouteille, enfin, on se débrouillait, et on accumulait le lait, alors à la fin, qui était plus bon, mais on le faisait bouillir. Alors, on n'allait pas le jeter, hein. On allait le bouillir et avec les miettes de pain, on faisait effectivement avec un œuf, voilà, puis on faisait un pain perdu, c'était très bon d'ailleurs. Voilà, c'était ce genre de réflexes qui sont induits par effectivement des pénuries graves, lourdes, dont les gens très longtemps n'ont pas parlé parce qu'ils voulaient les oublier et ils n'ont pas transmis à leurs enfants. La génération qui est née dans les Trente Glorieuses, ils leur en ont pas parlé. C'est la génération d'après, aux petits-enfants, qu'on raconte ça. Comme pour tous les drames de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, il y a souvent une génération qui manque, hein. Il y a une génération de trous. On parle pas de la déportation, on parle pas des Juifs, on parle pas des malheurs de la guerre. Et le manque de nourriture a été un malheur de la guerre. C'est la génération d'après qui a la volonté de transmettre, effectivement, ces idées-là.
Au lendemain de l'armistice, notre pays, qui auparavant apportait d'outre-mer plus de 2 millions de tonnes de denrées alimentaires, fut coupé de ses principales sources de ravitaillement. Un blocus appliqué brutalement et sans discernement par la Grande-Bretagne le privait d'une grande quantité de produits de première nécessité. Frappé directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartie entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière.
Les enfants français sont privés aujourd'hui des vitamines indispensables à leur croissance. C'est tout d'abord dans que furent distribués gratuitement par les soins du Secours National les bonbons vitaminés. Ainsi, la générosité des Français permettra de garantir à la jeunesse une alimentation rationnelle.
Ça a laissé des traces dans les mémoires, mais ça a aussi laissé des traces dans les corps, parce que ces enfants et ados qui ont grandi sous l'occupation en manquant de tout, de vitamines, de viande, ont connu des carences alimentaires qui ont impacté leur développement. Enfin bon, il y a une génération de rachitiques. Il y a une génération de gens qui a grandi en étant sous-alimentés. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les années 50, Mendès France instaure le verre de lait de 10 heures pour les petits-enfants qui manquaient de vitamines. Ça a laissé aussi, d'ailleurs, ces années 50, de très mauvais souvenirs d'huile de foie de morue, hein, aux gens.
La petite briquette de lait, ça s'est maintenu très très longtemps. Après le plan Marshall, hein, on importe des petites briquettes de lait venues des États-Unis et on distribue ça aux enfants à l'école parce qu'on savait que même dans les années 50, hein, alors qu'on est déjà la guerre est déjà loin, la France ne subit plus de pénurie comme elle a pu connaître pendant la guerre, mais on a toujours un problème de production. On ne produit pas assez et ces produits laitiers coûtent très cher. Et dans les familles pauvres, on n'a pas les moyens de payer un verre de lait aux enfants. Et moi, mon père me raconte toujours que, effectivement, c'était la grande fête à l'école, hein, à l'école primaire. On leur distribuait leur petite briquette de lait qu'ils buvaient pour éviter, effectivement, le manque de calcium et le rachitisme, qui était le fait d'une majorité.
Il y a deux boutiques, dans l'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant à qui les beaux le débit de lait, à qui les lait le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si lait. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau bobby. Au débit de lait, il y a la belle babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babée sont ennemis, car les badauds sont emballés par les bidons de lait de babée. Mais on maudit le lent débit des longs bidons du débit d'eau de bobby. Aussi babée ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de bobby. Et bobby lui répond en vidant les bidons d'eau sont des vies à les dents. Oh, les bidons d'eau sont des vies à les dents. Les bidons d'eau sont des vies à les dents. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babé. Les v'là tous deux en ménage, le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc et chacun dit en y allant à qui les beaux le débit de lait. Oh, quel palais le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau, bah palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau et la babée de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Mais les badauds sont emballés par les bidons lait de babée. Oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la babée jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons. C'est Bobby, c'est bébé, allez donc.
Et voilà les amis, c'est avec Charles Trenet que se termine le premier volet de notre balade au potager de l'occupation. Outre les actualités d'époque, vous aurez pu aussi entendre les extraits d'un documentaire satirique intitulé « Le temps des doryphores » qu'on vous conseille vivement. La suite, c'est au prochain épisode, même lieu, même heure, sur cette même antenne et sur le www.polemix-et-la-voix-off.com où vous pouvez réécouter cette émission. Salut!
Radio G. www.radio-g.fr.
Presence got nothing to say. Putting up roadblocks.